FMR 89.1.
Taxpayers, hello Nasty Bushwhackers, vous êtes en direct sur Radio FMR 89.1 MHz, également disponible sur le DAB+, canal 7C, ou alors même sur le stream radio-fmr.net, et c'est donc l'émission Crossover Extrême en direct de la Cinémathèque de Toulouse. Aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, on est assez nombreux autour de cette table et on est là pour vous parler des films qui ont passé à la Cinémathèque, qui sont passés hier et des films qui vont passer aujourd'hui et voir un petit peu plus tard avec eh bien un focus. Notre invité aujourd'hui est Guillaume Perrin qui dirige la maison d'édition Badlands et qui a eh bien une carte blanche pour présenter deux films dont un qui sera diffusé dans la fin de l'après-midi. Mais dans une première partie, généralement, ce qu'on fait, c'est que on écoute un gros morceau bourrin pour commencer, et ensuite on voit comment ça se passe. We'll be right back. The Rolling Voodoo, c'était un morceau de Cheetah Chrome. Alors pour les plus anciens d'entre nous, s'il y en a à cette table, eh bien ils se rappelleront bien les Dead Boys dans les années 70. Eh ben ouais, Cheetah Chrome donc qui a fait d'autres groupes. Et là c'est un album relativement récent qu'il a enregistré à Nashville, bien sûr. Nashville, le centre du monde en ce qui concerne la musique. On n'est pas là pour parler de musique, si un petit peu, mais on est surtout là pour parler de cinéma avec la rubrique Qu'est-ce t'as vu hier soir ou qu'est-ce t'as vu hier tout simplement. Et on va commencer par toi.
Eh oui.
Hein, parce que bah dans l'ordre des films ben qui ont commencé donc cet extrême cinéma hier, eh bien il y avait déjà les juniors de l'extrême, Goldorak. Bon, on va pas revenir dessus. Hein, bon, on voulait faire un petit topo hier, mais on n'a pas eu le temps. Et mais il y avait dans la salle 2 Attache-moi si tu peux.
Non, le titre c'est Bound.
Ouais, Bound.
Dans le cadre d'Attache-moi si tu peux, c'est un documentaire justement sur le Shibari qui est en fait qui est un art justement d'attacher les gens. Et ce documentaire expliquait justement l'évolution du Shibari, parce qu'au départ c'était vraiment une procédure pour attacher les criminels quand ils étaient capturés par la police. Petit à petit ça a été dévoyé en éléments, on va dire, un peu plus sexuels, et là maintenant c'est devenu de l'art. C'est carrément venu de l'art, et ce documentaire va présenter justement des artistes, des performeurs, mais également des personnes qui le font de manière totalement casual, c'est-à-dire totalement amateur, et qui prennent à la fois ça comme une performance et en même temps peuvent le prendre aussi pour un peu de plaisir, pour changer un peu leur quotidien. C'est très bien amené, c'est très bien fait. C'est un docu, tu le verrais sur Arte, tu ferais même pas la différence. C'est très.
Il y en a eu un justement sur Arte, c'est qui a été fait dessus il y a 2-3 ans de ça, qui présentait justement une performeuse et un des gars qui pratiquait cet art-là, et à eux deux donc ils faisaient ce qu'ils appelaient évidemment des tableaux, parce que évidemment ça devient, comme tu l'as dit, une véritable œuvre d'art, où la personne, c'était très souvent une femme, qui est attachée avec tout un tas de cordes, avec de manière très très complexe, avec des nœuds, on se demande même comment ça peut exister, et même de temps en temps, la personne est suspendu,
oui.
Ce qui amène aussi une certaine souffrance sur la personne.
Mais tu as le docu, en fait, il parle justement d'une évolution par rapport au documentaire d'Arte, c'est que justement il y a de plus en plus de femmes qui tiennent la corde, ouais, et de plus en plus d'hommes qui sont sur la corde. C'est une évolution, et surtout bah, justement comme tu parles des performances artistiques, où justement bah, ça devient de plus en plus des tableaux, et tu as des performeurs qui, une des performeuses qui était présente, bah, justement tu l'avais au milieu de l'exposition, tu avais des photos de ces performances où tu la vois sur la scène, tu la vois attachée, suspendue dans une certaine position avec que de la corde, et elle t'explique la performance, comment elle a été amenée et autres, mais d'une manière soft, c'est-à-dire t'as aucun préjugé, tu as rien du tout, c'est vraiment très très soft, et justement
c'est créer un tableau en fait.
Ouais, c'est vraiment la manière de créer un tableau, même s'il y a des dominants, des personnes dominantes qui sont dans l'interview et qui expliquent aussi ce côté-là, parce qu'il y a aussi ce côté-là, mais voilà, on a vraiment on montre vraiment tous les bords de ces événements, et surtout ben justement à nouveau ce changement où ça part dans de l'art sans que ça soit sexuel.
Oui, mais quand tu parles justement d'attacher, là je peux comprendre, mais quand tu parles de suspension,
oui,
la suspension fait plus penser, on veut dire, à une pratique sadomaso.
Oui, mais c'est vraiment pas amené sur ce point-là, quoi. C'est ça qui est assez étonnant, c'est justement ce n'est pas amené dans le documentaire. On en parle un peu, mais justement certains performeurs n'y viennent pas du tout pour ce genre de choses.
Bref, t'es entièrement
ça
marche.
Ça marche, c'est même.
C'est un film à conseiller, donc c'est un petit format, c'est du 52 minutes, hein, mais bon, c'est le format documentaire.
Voilà,
tu parlais d'Arte avant, pour être du Arte. Voilà, ok, ça c'était hier après-midi. Ensuite, alors là, qui c'est qui allait voir le Dracula Masala? Toi, alors vas-y, tu nous parles du Dracula Masala, pas trop longtemps, puisque toi tu l'as pas vu, quoi. Hein. tu vas pas aller le voir, quoi. C'est Isla la Tigresse du Goulag, qui est en fait le titre. Non, on parle de Dracula là maintenant, quoi. Vas-y, parle de Dracula. Ensuite, on pourra s'étendre sur du Bollywood. Oui, du Bollywood. Ouais.
Ah oui, c'est un film épuisant. Je suis sorti de là.
Épuisant. Pourquoi? Parce que
déjà, il est très long. Ouais. Et puis, il a un rythme effréné.
Mais pourtant, 2h40 pour un film Bollywood, c'est court. C'est très court.
Je sais pas si tous les Bollywood vont aussi vite. Il se passe autant de choses. Si la musique est tout le temps à 180 BPM. Si ça bourre comme ça tout le long. Il se passe des tonnes et des tonnes de trucs. Ouais, l'histoire, c'est un mec qui a un château, ça se passe il y a 200 ans, et il arrive à attraper un monstre, et au moment de le tuer, le monstre le maudit sur des générations qui pourraient plus avoir d'enfants, enfin, ses filles pourraient plus avoir d'enfants. Bon, il le tue, il enterre le corps et il enferme la tête dans les murs de son château. 200 ans après, donc, un descendant a une fille qui tombe amoureuse et son père lui dit non, on est maudit, tu pourras pas avoir d'enfant, faut pas que tu sortes avec lui. Et le couple décide de revenir au château pour annuler cette malédiction. Et là, bon, c'est parti. Il prend son meilleur ami qui est Bruce Lee, exposant 8, quoi, et c'est parti pour... Alors, le film, il part dans tous les sens. C'est-à-dire, il y a des passages très drôles, beaucoup d'humour. Il y a des passages gore avec des moyens plus ou moins...
rudimentaires. Ouais,
voilà. Et puis, il y a bien sûr les chorégraphies, les chansons d'amour, les chansons... Bon, les chorés, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans ce film. Les chorés, enfin, moi, de Bollywood, il y a des trucs blindés de thunes à des chorés avec 200 danseurs. Bon, là, on est sur 15-20. Quand il n'y avait pas qu'une seule danseuse, c'est dans les terrains vagues.
C'est toujours mieux que les shows de Marcy et Gilbert Carpentier. Hein.
Enfin, c'est bien gore et c'est étonnant parce que de voir du gore enchaîner une chanson d'amour, après on part sur des blagues très potaches. Enfin, ça enchaîne comme ça, la musique hyper forte, 2000 à l'heure, t'as l'impression d'écouter B-52 en 78 tours minute, là, c'est affolant, quoi. J'ai sorti de là, j'ai dit, bon, allez, ça va aller, merci. Je sais pas si j'irai voir l'autre, du coup.
T'iras pas voir l'autre,
je sais pas, parce que...
Virana, quoi.
Et c'est éprouvant.
Ok, voilà. Le seul dont on n'a pas parlé, eh bien, on en profite pour que Guillaume ait eu le temps de s'installer. Guillaume Perrin, bonjour.
Bonjour.
On va parler de toi un petit peu plus tard, mais comme tu as vu également, et peut-être revu, Ilsa, la tigresse du goulag, alors là, ça va être le tour de table. Toi, tu l'as vu, toi.
Oui, il y a très longtemps.
Ah, il y a très longtemps, quoi. Et donc, moi aussi, présent dans la salle. Alors donc, allez, vas-y, continue sur ta lancée, là, pour
Ilsa. Ouais, Ilsa, la tigresse du goulag, en fait, c'est le titre pour la moitié du film, parce qu'après, elle est...
au Canada.
Elle est tenancière de bordel à Montréal.
Donc le retournement de situation. Ouais. Elle a dévoilé.
Là, de toute façon, il a le film est passé. Mais non, si t'as pas vu, on spoil le tout.
Ah ben non, mais de toute façon, même dans la présentation hier soir, ils l'ont spoilé.
Ça commence dans un goulag, donc c'est une prison. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a trois cabanes en bois au milieu de la neige, là, avec une magnifique blonde, donc, qui dirige ce goulag, qui a quelques sous-fifres, là, des sous-chefs, donc, pour diriger ce truc. Et ce qu'elle adore, c'est voir ses sous-chefs se battre pour coucher avec elle. Et elle, quand elle a une scène d'amour, c'est avec deux mecs minimum. C'est comme les témoins de Jéhovah ou les CRS à moto, c'est deux.
Et qui donc, doivent se battre pour elle en plus.
Pardon ?
Qui doivent se battre pour pouvoir.
Ouais, voilà, c'est ça. Elle adore les voir se battre et les deux plus forts, qui sont jamais les mêmes, parce qu'ils sont à peu près de force égale.
Et ils commencent toujours à se battre après avoir bu au moins 3-4 verres de coca.
Il y a un budget verre cassé aussi.
Il y a un budget verre cassé qui est assez incroyable.
Ils ont tout mis dans les verres et pas trop dans les cabanes et dans le goulag. En même temps, il n'y a pas besoin de grand chose, il fait froid.
Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, dans la pièce, en fait, tu ne vois pas le buffet où pourraient être entreposés les verres. Le nombre de verres qui est pété.
Ils sont peut-être faits en glace.
Ouais, enfin, le bruit qu'un tigre se casse, je suis pas sûr.
Oui, après, mais c'est de la post-prod. Hein.
Ouais. Donc après, elle a eu un tigre, cette jeune femme, dans une cage, et c'est là qu'elle donne à manger avec les prisonniers récalcitrants. Et il y a un prisonnier particulièrement récalcitrant, là, je sais plus son nom, ça commence par Chi, mais...
Choukarine.
C'est ça ?
Ouais, un truc comme
Andrei,
ça.
Andrei Choukarine.
Choukarine. Ça commençait pas par Chi ?
Ouais, peut-être.
Choukarine, voilà.
Andrei de son prénom, ça
bon, en tout cas, à la mort de Staline, c'est la rébellion, et il y a quatre survivants, donc la blonde, deux sous-fifres, et ce fameux Choukarine. Et puis donc, là, on passe directement en 1977, je crois, Montréal. Et là, on voit cette blonde en tenir un bordel en ville, là. Donc, et il y a aussi le tortionnaire du goulag qui a dû survivre aussi. On ne l'a pas vu survivre, mais tout prend feu, il y en a trois qui partent, mais lui, il a dû s'en sortir, on ne sait pas comment. Donc déjà, c'était le gars qui était censé torturer les gens pour les retourner pour Staline. Et ce gars se retrouve donc 30 ans après à avoir des techniques beaucoup plus sophistiquées. D'ailleurs, des techniques...
Il appuie sur plein de boutons en même temps, ouais, c'est voilà, magnifique, ouais. C'est fascinant. Moi, j'ai
oui, mais c'est surtout les films en 3D ultra réalistes où quand on te projette ce film sur toi, c'est t'as la réalité autour de toi. Donc l'idée, c'est de chercher la phobie des personnes pour après accentuer sur cette phobie et les terroriser et ensuite de devenir très obéissant. Alors ils font ça avec les jeunes filles qui travaillent dans le lupanard, là, mais ils font ça aussi. Ils vont essayer de faire ça sur Choukari, là.
Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'il explique qu'il analyse les terminaisons nerveuses du cerveau, mais les femmes sont à poil. C'est-à-dire qu'elles ont plein de...
Ah, mais c'est normal. C'est pour mettre les électrodes, voilà,
les électrodes
tu veux
partout
faire,
sur le corps. Bien qu'il analyse le cerveau, c'est partout sur le corps. Donc ça, c'est assez...
Oui, alors que quand c'est l'homme, il n'est pas à poil.
Il n'est pas à poil.
Il n'y a que les femmes, bizarrement.
Voilà, c'est totalement gratuit, mais en même temps, on vient pour ça. Donc,
oui, il y a un peu d'érotisme dans le film. Ouais. Voilà, et donc après, l'ambassade de Russie va s'apercevoir que Choukari... Ce Choukari, comme de par hasard, il accompagne ses copains au lupanard, mais lui, il ne veut pas coucher, en fait. C'est le gars, il est parfait, lui, en fait.
Et donc, tu devines assez facilement sa phobie qui va arriver ouais, par la suite.
Et donc, il va se faire repérer par la blonde qui a des caméras de surveillance partout, même dans les salles d'attente. Elle va venir le chercher, l'arrêter, et puis sa disparition va inquiéter les Russes, et ils vont envoyer les gens pour aller le chercher.
Bah, oui, c'est quand même le gardien de but de l'équipe de hockey sur glace. Ouais. Hein, donc,
enfin, je sais pas quelle agit là, parce que hein. Déjà, donc, pendant Staline, c'était combien ? Les années 50. Donc il était déjà adulte. Et 30 ans après, il est gardien de but. Donc il est gardien de but, il a 50 ans.
Ah ben oui, mais attends.
C'est à peu près ça.
Et ça concerne le hockey sur glace.
Les gardiens de but jouent plus longtemps que les autres, mais là quand même.
Mais quand tu vois Ilsa, elle a pas trop vieilli non plus. Hein.
Oui.
Elle a changé de coupe.
Oui, voilà.
Mais
tout,
oui, ouais. Ben oui, mais elle s'entretient, intéressant. Mais du savon, de la crème, là, ça doit bien entretenir.
Du savon qui ressemble beaucoup à de la mousse à raser, quand même. Hein.
Ouais. Ouais, parce que ça a du mal à partir. Ouais.
Et voilà, mais finalement, ça va mal finir pour elle. Mmh. Elle va devoir se geler sur la glace, là, et brûler tout son argent pour se réchauffer.
Voilà. Mais non, c'est moi j'avais vu en fait Ilsa la Louve SS et je pensais que j'avais vu celui-ci mais je l'avais pas vu et je trouve qu'il est bien plus amusant, même plus rythmé, mieux rythmé. L'autre est très crapoteux finalement et ça franchement pour une séance bis entre de cinéma bis c'est vraiment moi je me suis beaucoup amusé. La VF y joue pour beaucoup aussi.
Là oui c'est ça, ouais. C'est ce que j'allais dire, hein. C'est la version française là qui
c'est assez
vraiment,
truculent, ouais. Ils essayent de faire plein de métaphores avec la mer noire. Les sabres, enfin il y a plein de.
À cette époque-là, sur tous ces films-là qui n'étaient pas considérés comme vraiment sérieux, ils avaient évidemment le texte qui défilait pour des. Mais
ils
avaient une dose d'improvisation qui leur était allouée.
Et le casting vocal est assez impressionnant. Il y a celui qui fait la voix de Rambo, de Stallone, je veux dire, et qui est décédé là récemment. Donc il y a un casting vocal.
Voilà,
assez...
c'est quand on entend les voix, on les connaît. C'est vraiment
des ridicules. C'est-à-dire que même pour un petit film, à petit budget, on va dire, c'est vrai que les voix, je trouve qu'elles sont assez bien rendues. Et même les dialogues sont pas ridicules, quoi.
Non,
moi, je m'attendais effectivement à quelque chose de moins bien ficelé, quoi, je dirais.
Bon, il y a des voix quand même, notamment l'autre joueur du hockey, le plus jeune joueur de hockey, là. C'est vraiment la manière dont il parle, on dirait un enfant et qui se plaint et tout ça. C'est très amusant, se dit en passant, mais vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Ça passe, c'est super rythmé finalement. C'est plutôt bien mis en scène pour de cinéma de ce genre. Et
oui, voilà,
franchement,
ça,
on s'ennuie pas du tout. Ouais. Et
oui,
c'était une belle surprise.
Ouais,
la salle était plutôt réactive aussi.
Oui, c'est vrai. Ouais. Le film pour un petit budget, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés, que ce soit au niveau des effets spéciaux ou par exemple, la bataille avec le tigre, elle est pas ridicule. Elle aurait pu être beaucoup moins bien faite, quoi.
Ouais, c'est plutôt bien filmé.
Ouais, c'est ça, c'est bien filmé. Même les scènes un peu gore sont sympas. Enfin, moi, j'ai trouvé plutôt réussi, effectivement.
Ouais,
et puis
la
fin est aussi assez surprenante par rapport aussi à ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve qu'elle est plutôt originale et plutôt bien faite. Ouais.
Non, mais ils ont bien compensé le manque de moyens, quoi, hein, par justement une espèce de caméra qui est assez, on va dire, vive, assez active comme ça, quoi, et qui justement essaye et arrive souvent à masquer les défauts. Hein, les défauts de décor, les trucs comme ça et tout, c'est vraiment quoi, avec cette espèce de dynamisme qu'a la caméra et les différents plans, quoi, surtout dans les scènes de fight, quoi, c'est dans les scènes de bagarre, là, ok, tu peux te dire ouais ça marche, parce que vraiment bon, on peut pas dire que les mecs savent vraiment se battre, quoi, ouais, vraiment. Mais bon.
Oui, mais bon, il y a un petit côté jazz band qui est sympa, quoi.
Oui, il y a même une mélodie, j'ai l'impression, qui récurrente, qui en début de séquence, qui dure peut-être 3 secondes, et on a vraiment l'impression que c'est une musique tirée d'un film de James Bond, voire volé peut-être.
Ouais, c'est possible.
Ouais. Et sampler, je pense, du coup.
Donc pour Ilza, la tigresse du goulag. C'est unanime, on approuve, on avalise à fond les manettes.
Mais du coup, moi, je suis super curieux de voir, parce que j'ai vu les deux premiers, ça la Louve SS, ça la Tigresse du Goulag, et il y a le harem de, le troisième, du coup, je crois qu'il y a le harem.
Je crois que c'est le deuxième.
C'est le deuxième, pardon.
C'est le deuxième.
Là, c'était le troisième.
Voilà, ok, je suis curieux de voir l'autre que je n'ai pas vu.
Oui, oui, l'échec du harem, quoi.
Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je sais qu'il y a harem dans le titre, pardon, mais moi, de.
Ok, on fait une petite pause musicale, puis ensuite on va attaquer l'homme qui est en face de moi, qui a des vues déjà, qui a vu le film hier, quoi. Donc, oui. Qui nous en a parlé, quoi. Allez, vas-y. Et c'est quoi là maintenant, quoi ?
François Ier. Me.
Vous êtes toujours en direct de la Cinémathèque sur Radio Éphémère et dans Crossover Extrême. C'était les François 1er, donc on l'a dit au départ avec le morceau Salamander Shuffle. À présent, Guillaume Perrin, donc enfin on te présente, c'est à toi, c'est à ton tour, tu as une carte blanche, et si tu as une carte blanche en fait c'est parce que tu as un certain savoir-faire, une certaine connaissance dans le monde du cinéma. Et ça vient surtout, pas que, mais ça vient surtout du fait que tu as une maison d'édition, c'est bien une maison d'édition,
ouais.
qui va éditer des DVD ou des différents formats. T'as d'autres formats que DVD ou
Alors oui, Badlands en fait c'est né d'une légère frustration avec en fait on a créé cette société avec Sylvain Perret et Anthony Plu suite à une frustration qu'on avait avec le site inculte.com qui est un webzine qu'on avait créé dans les années 2010, enfin c'est Sylvain qui l'a créé, nous on a rejoint un peu tout ça, et à un moment à force de parler de cinéma alternatif de manière rédactionnelle et écrite, et on s'est lié d'amitié aussi, on faisait beaucoup de mini-vidéos, de petits reportages où on donnait la parole aux hommes de l'ombre ou aux réalisateurs, monteurs, des restaurateurs et tout ça. Et il y a un moment, pareil, on parlait des films et ils étaient toujours invisibles, et on s'est dit, une fois qu'on avait fait le tour avec un culte de tout ce qu'on pouvait faire pour défendre des films de manière écrite, on s'est dit mais on pourrait pas essayer de faire quelque chose davantage et de les éditer, et voilà, donc c'est comme ça qu'est né Badlands. On a sorti La bouche de Jean-Pierre de Lucila Zelalovitch, et par la suite on a sorti L'aiguille, qui est passé ici il y a tout juste 10 ans avec d'autres films du réalisateur,
oui,
Rachid Oukmanov,
qui était venu ici d'ailleurs.
Oui, oui, on était invité, exactement. On avait passé Wild East et
on s'est croisés alors, puisqu'on était là.
Sans doute, mais c'était il y a 10 ans, donc. Donc voilà, et puis
on était de l'autre côté, quoi.
Oui, c'est possible, ouais. Et j'ai plus trop de... J'avoue, ça fait un moment. Et en fait, comme moi, c'est un side job, je fais ça vraiment à côté d'un autre... Ça prend du temps. Après, il y a la vie privée et tout ça qui rentre en jeu aussi. Et là, on essaye de donner un nouveau souffle à la boîte. Et c'est pour ça, là, on a récemment sorti, l'année dernière, 3 films japonais, dont un qui est passé dans le cycle huis clos, ici, à la Cinémathèque de Toulouse. Je crois que c'était au mois de juin l'année dernière, au mois de mai-juin, et puis là, du coup, de nouveau, une de nos futures sorties avec l'attaque des fourgons blindés qu'on va sortir. Donc voilà.
Et là, ça change radicalement de style, en plus, quoi.
Oui, alors nous, on aime tous les cinémas.
Ouais, parce que
moi, j'aime tous les cinémas. On a fait, donc, du coup, Lucille, c'était un film français. L'Aiguille, c'est un film de gangster kazakh. On a sorti également Else Grand, qui donc un film d'horreur pakistanais, qui aurait pu très bien s'inscrire dans la carte, enfin, dans le cycle cinéma indien.
Et, non, tu vas pas mélanger les pakistanais.
Là, toi, tu te fiches.
Non, mais je veux dire, ça aurait pu s'inscrire dans ce cycle, parce que c'est un peu les mêmes codes. Et voilà, donc, et puis là, du coup, après, c'est 3 films japonais, plus là, on a 2 films coréens qui vont sortir également, et des films indépendants coréens, rien à voir avec les polars, c'est pour donner une autre vision, justement, de ce que peut faire la Corée. Et ce film australien qui était très peu visible et assez méconnu de la filmographie de Bruce Beresford.
Et je vois que dans ta petite bio qu'il y a dans le programme, vous intéressez également au Pinku Eiga.
Oui. Alors, moi, je suis fan de cinéma asiatique de manière générale. C'est ce qui me fait, qui me touche davantage que les autres cinématographies, parce que c'est, ou le cinéma, même le cinéma indien, parce que c'est toujours surprenant. Il y a toujours une folie. On peut jamais s'attendre à ce qui va se passer. Enfin, voilà. Et puis, il y a toujours des effets de caméra inattendus ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. C'est vraiment un cinéma qui m'anime. Et du coup, forcément, le Pinku, qui fait partie intégrante de l'histoire du cinéma japonais dans les années 60-70, ça m'a intéressé. On a eu l'occasion de rencontrer une actrice emblématique du bondage, justement, de cette époque-là, à l'occasion d'un festival à Paris Cinéma qui n'existe plus. Et on a interviewé aussi un journaliste et rédacteur qui travaillait pour HK Vidéo aussi également, qui s'appelle j'ai perdu, je suis désolé, j'ai perdu son nom. Bref, on a interviewé plusieurs personnes, dont Romain Slocombe également, et qui lui a écrit et fait des photos sur l'érotisme japonais. Et voilà. Donc,
mais il a écrit des polars aussi qui sont basés au Japon.
Ouais, oui.
Avec sa période japonaise également. Mais on parle de Pinku Eiga, et non, on a un grand spécialiste, bien entendu. C'est une festive grunt. Alors vas-y, présente-nous succinctement ce qu'est le Pinku Eiga.
Je t'avouerai que là, je vais botter en touche. Parce qu'en fait, c'est un style.
C'est un style de cinéma érotique purement japonais.
Voilà. Alors, oui, ça englobe vraiment. C'est toute une période du cinéma japonais dans les années 60 où il fallait faire revenir les gens dans les salles, puisqu'il y avait la télé qui arrivait dans les foyers. Et donc, du coup, les gens délaissaient les salles de cinéma. Et pour faire revenir, ils ont trouvé cette idée de cinéma d'exploitation, de faire du cinéma érotique. Alors, le Pinku, c'est vraiment par contre très large. Après, il y a le roman porno à la Nikatsu, il y a le cinéma là qu'on va voir plus tard dans la journée de Koji Wakamatsu, qui va avec l'embryon par Macroné, où là c'est vraiment du Pinku pour le coup. Et voilà, c'est vraiment une tendance comme ça qui s'est créée dans le cinéma japonais. Et ça a cartonné. Il y avait je sais plus combien de films par an, mais c'était facile 70 ou enfin, au moins. Je crois que c'était à peu près 80% de la production pendant un moment.
Ah, quand même.
Donc ouais, c'est fait vraiment partie de la ou 70, mais c'est assez important dans l'histoire du cinéma japonais.
Ouais, je crois savoir que bien les réalisateurs qui sont un petit peu plus récents japonais s'entend bien ont également tâté un petit peu comme ça, ont ramené leurs pattes à ce genre.
Oui, bien sûr. Mais il y a même comment le réalisateur qui a gagné un Oscar du meilleur film étranger avec Departures, qui était un film sur la mise en bière, qui était violoncelliste et tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, qui est sorti il y a peut-être un peu moins de 10 ans maintenant. Il a été distribué en France et tout. Et ce réalisateur-là a commencé dans le Pinku, dans le roman porno. Donc, il y a beaucoup de grands réalisateurs qui viennent de ce cinéma-là. Même Kiyoshi Kurosawa s'y essayait. Enfin, il y en a beaucoup.
Est-ce que dans les sorties donc DVD ou Blu-ray que vous faites sur la avec Badlands, est-ce qu'il y a des interviews, des choses ou des bonus que vous avez fait vous-même
On réalise tout de A à Z, c'est ça qui nous passionne. C'est aussi pour ça, comme je vous ai dit, avec un culte, avec Sylvain qui lui était déjà dans une boîte de prod et monteur. Pareil Anthony et lui également monteur. Et nous, c'est ce qui nous passionnait, c'est de quand on a commencé un culte, on faisait aussi beaucoup d'interviews et c'était au tout début au balbutiement d'Internet. Tout de suite, quand les gens ont proposé de faire des émissions de cinéma, ils ont voulu concurrencer la télé de manière générale. Ils faisaient des émissions d'une heure, deux heures, alors que pas beaucoup de gens avaient la DSL. Et nous, on avait tout de suite pensé le format en 10-15 minutes max, quitte à couper les interviews et faire 3-4 parties. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, on sait faire ça, on sait faire autre chose. Et donc, du coup, on pourrait tout faire pour éditer un film, en fait. Et on met un point d'honneur, justement, à faire des beaux bonus. Là, pour les Kawashima, on a interviewé Christophe Gans, on a interviewé Bastian Meresson, on a interviewé Stéphane Duminido. Et pour faire des présentations de films, déjà, d'une part, et aussi un documentaire en trois parties qui retrace un petit peu la carrière de Yuzo Kawashima, qui est un réalisateur vraiment méconnu de par le monde, sauf au Japon. C'est un réalisateur essentiel au Japon. Je crois qu'il a le plus d'ouvrages sur son nom, même plus que Akira Kurosawa, que Ozu Naruse au Japon. Il y a toujours des nouveaux ouvrages qui sortent. On a interviewé aussi Clément Roger, qui est un spécialiste de Yuzo Kawashima. Il a même écrit beaucoup dessus. Et donc voilà, à chaque fois on essaye de faire des beaux documentaires avec bien montés, avec des interviews qui se répondent et tout ça. C'est pas juste du caméra face cam.
Ouais, c'est plutôt bien. Ouais, vas-y.
Et pour le choix des titres de votre catalogue, en fait, dans l'histoire, comment vous procédez ? Est-ce que c'est des choses par coup de cœur, des découvertes ou des choses que vous connaissiez déjà, que vous essayez d'avoir ? Comment ça se passe en fait, ce genre de truc ?
Alors c'est la recherche de droit, c'est toujours très compliqué parce que comme moi je fais ça à côté, j'essaie déjà de me dire est-ce que ce film existe en version restaurée. Et là c'est très difficile de savoir et c'est lié aussi au film que moi j'ai découvert, par exemple La Bête élégante de Yuzo Kawashima. Moi je l'ai vu il y a de ça peut-être 10 ans à la Maison de la Culture du Japon. Et j'avais gardé ça en tête. Et je sais plus comment c'est revenu à moi récemment. Et j'ai essayé de chercher si il y avait une copie 2K, 4K. Et j'ai vu qu'il était en effet sorti au Japon pour un hommage à Ayako Wakao, l'actrice. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de contacter Kadokawa, qui est le distributeur. Et c'est comme ça qu'on a entamé les démarches. Moi, je voulais en sortir qu'un. Évidemment, avec les Japonais, généralement, ils préfèrent qu'on achète plusieurs films, et parce que ça revient plus cher d'acheter qu'un seul film au final. Et moi je me suis dit bon, on n'avait pas trop de trésor, mais voilà, on a un équilibre économique assez précaire, on perd pas d'argent, on n'en gagne pas, mais ça nous, enfin pas beaucoup, mais ça nous permet juste d'acheter des nouveaux titres et de faire vivre la société uniquement comme ça. Et ils m'ont proposé du coup deux autres films. Ils m'ont dit mais on a deux autres films avec la même actrice et le même réalisateur. Là pour le coup je les connaissais pas, donc ça vient de. Et je les ai découverts, j'ai fait waouh, ouais, mais c'est incroyable. Et puis on se lance, c'est un pari. C'est un pari fou, mais c'est un pari. Et j'ai fait vas-y, on prend les trois. On a liquidé toute notre trésorerie là-dessus. Et heureusement, du coup, on a eu le soutien du Shaki Fume pour nous aider justement à continuer de pouvoir sortir. Parce qu'on est très lié au Shaki Fume et même d'autres éditeurs. Par exemple, j'ai oublié de dire par rapport à ta question initiale, on sort aussi des livres. Il y a Sylvain qui a sorti un livre sur le cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Et là, par exemple, ça a été co-distribué avec Carlotta. Donc voilà. On fait un peu tout. Je sais pas si j'ai un peu répondu.
Tu fais pas un plan sur celui-là
sur les trois films. Donc la femme deux fois.
Oui, au début quand il y a eu des préventes, parce que du coup via la boutique du Chat qui fume, on avait fait un pack évidemment, ou même j'offrais dans le pack en cadeau Else Grand. En plus de faire une réduction, voilà, donc il y aura peut-être d'autres promos qui vont venir avec les autres sorties, on verra.
Et pour le cinéma des autres pays, c'est les choses c'est les titres que vous connaissiez d'avant,
des trucs. Alors oui, c'est des choses. À chaque fois, c'est des films qu'on a. Moi, majoritairement, c'est des films que soit j'ai découvert de mon côté, soit j'ai découvert dans des festivals. Par exemple, pour l'histoire de l'aiguille, il est passé au festival du cinéma asiatique de Vesoul, et c'est donc Eugénie Zvonkin et Sylvain qui est une spécialiste du cinéma russe, soviétique, de manière très large, et qui sont revenus vers moi. Ils m'ont dit « Ah, on adore ce film, c'est génial, tu devrais le voir. » Et on connaît le réalisateur qui s'avère qu'il habite en France. Donc on a pu là, pour le coup, encore une autre démarche, directement négocier avec lui. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Pour Lucille, en fait, on connaissait Lucille via un culte parce qu'on avait déjà notre premier film, on l'avait déjà interviewé plusieurs fois et tout, et on adore son cinéma. Elle nous a fait ce cadeau de nous offrir entre guillemets le film et de nous faire confiance parce que c'était notre première édition. Donc on a pu travailler main dans la main avec Gaspard Noé, Lucille, toute l'équipe. On a réuni pour l'occasion toute l'équipe. On a interviewé aussi Bruno Cattet et Hélène Forzani. C'est dans ce sens-là. Et Christophe Gans, enfin plein de gens qui aimaient le film, réunir aussi de nouveau l'équipe du film. Ils étaient ravis parce qu'ils ne s'étaient pas revus depuis l'époque du tournage. Et je pense qu'on a une passion communicative qui touche les gens avec qui on travaille et qui nous font du coup confiance. Et voilà. Et pour les deux films coréens qu'on va sortir, moi je les ai vus au Festival Franco-Coréen de Paris. Et à chaque fois, je garde en tête les titres parce que voilà.
Ça marque.
Ouais, ça marque. Et voilà. Et le film australien, là, c'est encore une autre histoire. C'est un ami d'enfance du lycée qui, lui, est juste passionné comme peut l'être vous et nous de cinéma, mais il travaille pas du tout dedans et tout. Il fait autre chose et il m'a dit, j'ai vu un super polar. Tu devrais le voir. C'est un truc sec, brutal. Tu vas voir. Et je l'ai vu. Et du coup, là, pareil, j'ai essayé de me renseigner S'il y avait une copie 4K, j'ai vu qu'il avait été restauré récemment en Australie pour par une Australian Film Archive, un truc comme ça, je sais plus trop le nom, mais voilà. Et du coup, j'ai essayé de trouver l'ayant droit, j'ai essayé de contacter la société qui avait restauré le film, j'ai pas eu de réponse. Après, via Stéphane du Chèque qui Filme, il m'a donné un revendeur, le contact d'un revendeur, et là j'ai pu avoir via lequel il avait acheté Long Weekend, qui est un super film, je sais pas si vous l'avez vu, et le premier film d'Alex Proyas, qui est donc voilà.
Long Weekend, c'est un film sur le surf, non?
Non, c'est Summer, Last Summer, peut-être que tu parles, le film sur le surf ou un truc comme ça.
Ouais.
Ou Long Summer, je sais plus, qui est sorti chez Carlotta. Là, c'est Long Weekend, c'est un film fantastique où la nature reprend ses droits. Et c'est super, c'est un film inquiétant et tout, c'est super bien. Il est chez Chaque Film d'ailleurs. Et là, du coup, j'ai une réponse et c'est comme ça qu'on entame les démarches. Bref, tous les cas, c'est vraiment à chaque fois des cas différents, c'est des négociations totalement différentes également avec chaque ayant droit, et c'est assez compliqué. C'est le plus dur en fait.
Ouais, parce que Bruce Beresford, le réalisateur, à l'époque, il est pas tellement connu. C'est un film de 78, mais par contre, sa filmographie, ça va, quoi. Il a quand même fait Miss Daisy et Son Chauffeur. C'est son heure de gloire, hein, d'ailleurs, quoi.
Oui, oui.
Hein, parce que c'est un mec qui a fait énormément de courts-métrages avant de commencer ses longs-métrages. Il a commencé en 59, des courts-métrages jusqu'aux années 70. Et en 70, son premier long-métrage, c'est en 72, en fait, c'est The Adventure of Barry McKenzie. Ils vont en faire un deuxième avec Barry McKenzie, et donc ce Money Movers, ou l'attaque des fourgons blindés pour nous, en 78, avec un casting australien, mais bon, il y en a qu'on connaît quand même, Brian Brown, hein, qui est quand même devenu un bon acteur, on va dire, de second plan, quoi, mais enfin bon... Bien, Tony Bonner également et plein d'autres. Et ce film donc s'est diffusé en première partie de soirée aujourd'hui à 19h et présenté par Tes Soins. Donc tu nous spoiles pas ce que tu vas dire après. Si, c'est peut-être la même chose.
Non, j'essaierai d'en dire davantage que tu en as présenté déjà le réalisateur, je garde la surprise pour tout à l'heure.
Ok, ça marche.
Pour éviter... Alors après, peut-être que les auditeurs ne seront pas là. Donc non, mais oui, comme tu as dit, on peut... En effet, Bruce Beresford, il est surtout connu pour Miss Daisy et Son Chauffeur, qui a gagné 4 Oscars. Tendre Bonheur, avec Robert Duvall aussi, qui a gagné 2 Oscars. Et donc des films totalement différents de ce qu'il a fait avant, précédemment. Il a fait aussi un film avec Sharon Stone qui est condamnée à la peine de mort, qui s'appelle La Dernière Danse, je crois. Il a fait un polar avec Tommy Lee Jones et Ashley Judd, qui s'appelle Double Jeu.
Excellent. Voilà. Oui, très
Double
bon.
Double Jeopardy, je crois, avec plein de rebondissements, retournement de situation. Donc, vraiment, c'est assez étonnant. La suite de sa carrière quand on voit le début de sa carrière. Voilà. Et c'est ça qui est surprenant quand vous verrez l'attaque des fourgons blindés, soit ici à Toulouse, soit plus tard en vidéo en Blu-ray.
On peut faire les deux. Hein.
Oui, vous pouvez faire les deux pour le revoir. Surtout que là, on essaye d'avoir. Moi, j'ai réussi à avoir un making-of tourné par une boîte australienne qui était déjà présent sur le Blu-ray australien, parce que le film est sorti l'année dernière en Australie en Blu-ray. Donc il réunit toute l'équipe, donc c'est bourré d'anecdotes. On va avoir aussi un spécialiste, Melvin Zed, qui a écrit sur Mad Max, notamment un bouquin sur Mad Max. On va l'interviewer également pour qu'il nous recontextualise tout ça. Donc ça sera, il y aura pas mal de bonus, et j'essaye aussi peut-être d'avoir d'autres noms, pour concocter une belle édition.
Nickel. Allez, on va faire une petite pause musicale vite fait, et ensuite on vous parlera des autres films qui sont visibles aujourd'hui à la Cinémathèque dans le cadre de l'extrême cinéma. Allez, un petit morceau indien, non? C'est ça, quoi? Hein?
Demon time, dream time. Oh!
De retour sur le plateau de l'extrême crossover, c'était Grey juste à l'instant, G-R-E-H, un groupe espagnol. Bah ouais, on part dans toutes les directions, il y a pas de souci de ce côté-là. Là, à présent, bah, il nous reste pas mal de temps, c'est bien pour bah, vous rappeler ce qu'on va pouvoir voir. Alors là, le bordel que vous entendez depuis à peu près une demi-heure, c'est parce qu'on est situé dans le hall. Et c'est parce que, eh bien, il y a des gens, il y a le public qui arrive pour voir la première séance. Là, ça va être dans une dizaine de minutes et c'est la carte blanche de à Christophe Beer qui présente son deuxième film. Le premier, il l'a présenté hier soir, c'était Ilsa, et là ça va être le dernier, le tout dernier Moki, tous flics, donc à 14h à la Cinémathèque. Dépêchez-vous, ça vaut le coup, c'est pas mal et c'est du Moki, hein, de toute façon. Toi, je suppose que tu connais un petit peu Moki aussi.
Oui, oui, et puis on l'avait interviewé avec un culte. Bon, j'avoue.
Ça doit être un bon client, à mon avis.
Alors, ça dépend son état de sobriété, on va
d'accord,
dire.
Ouais, ouais, ouais.
Sans vouloir, mais ça fait partie du personnage et c'est vrai que c'était dans le cadre de l'étrange festival et on l'avait interviewé et c'était assez folklorique cette interview. On s'en rappellera, je pense, avec mon collègue Sylvain et ami, on s'en rappellera longtemps.
C'est pour ça que je parle de bon client.
Voilà.
En fait. Tout simplement. Donc là, c'est cet après-midi. Alors, un peu plus tard dans la journée, je ne sais plus où je suis là.
Quoi. À 16h, tu as les programmes de courts-métrages autoproduits.
Des courts-métrages autoproduits. Alors, ça se passe dans le hall. Hein.
Oui.
D'accord. Ça se passe pas en salle. Et ensuite, à 19h, eh bien, c'est ta carte Money blanche, là. Hein, donc,
et je précise que je ferai gagner des DVD de Hell's Ground. Pour certains spectateurs. Voilà.
Et merde.
J'ai pris ma place.
Non, mais je peux pas participer, quoi. Je fais partie du staff, quoi.
Et merde.
Bon, tant pis. Alors, c'est l'acte du fourgon blindé, on l'a dit, de Bruce Beresford. C'est à 19h. Et c'est dans la grande salle, hein, me semble-t-il, quoi.
C'est ça, oui,
c'est dans la grande salle. Après, à la fin du film, et ce qui est un entracte, un extrême entracte qui a lieu tous les soirs à la Cinémathèque, c'est entre le film qui commence à 19h et le film qui va commencer à 21h, donc à 20h45, petit entracte de entre 5 et 10 minutes, c'est des performances. Et là, ben, ce soir, alors tu vois, j'ai pas fait exprès de mettre des trucs métal, mais c'est un karaoké métal.
Et hier, j'ai vu comment ça s'appelle, De Poutrelle. Quand je lui ai dit qu'il y avait le karaoké métal, elle m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt?
Ce soir,
même, elle est occupée ce soir.
Non, mais quand on aime le métal, on se déplace. Il n'y a pas de souci.
C'est une
conne. Alors, et ce soir, donc à 21h, vous avez deux films, car il y a deux salles dans la Cinémathèque. La salle normale et une petite salle, mais enfin, bon, qui est, j'aime bien, elle est cosy, elle est sympa et tout, quoi. Mm-hmm. On est un petit peu à, on se sent un petit peu intime dans cette salle. Il y a plus d'intimité que dans la grande salle. Bon, c'est le propre des salles. Hein. Alors, dans la petite salle, donc, ça va être le premier Roger Corman qui fait partie de la séquence double programme de ce festival. Roger Corman qu'on présente plus, hein, ça va, quoi. Alors si, moi je voulais le présenter un petit peu, parce que ce type a fait beaucoup de films d'exploitation, mais enfin bon, des fois quand tu les vois, tu dis, oh là là, j'ai perdu mon temps, enfin bon, bref, quoi. C'est assez négligeable. Il a fait des très bons films au début de sa carrière, des films d'horreur. Il a adapté du Edgar Poe. Enfin bon, vraiment, c'était assez sympa. T'es d'accord avec moi, hein,
toute façon, mais je crois que c'est lui qui avait fait The Intruder avec.
J'allais en parler. Et il fait The Intruder en 62. Alors là, c'est carrément une claque parce que c'est un film qui veut dire quelque chose et avec un William Shatner qui était très jeune à l'époque qui, qui développe un problème de société dans ce film, qui à l'époque, on était en 62, eh ben c'était fallait le faire,
ouais, bien
quand
sûr,
même,
bien sûr, ouais.
Parce qu'après, bon, ok, hein, il s'est un petit peu égaré, mais ça on verra un peu plus tard avec son deuxième film qui doit passer demain, je crois. Et ça a été surtout un énorme producteur. Et là, bon, vous tombez sur le cul parce que le type a fait presque 500 productions. Producteur de au moins 500 films. Alors, je vous passe les films qu'il a produits. Alors, il y en a des très récents qui sont pas mal, mais là, ils donnent dans le truc de la bestiole, tu sais, hybride, genre les Camel Spiders, Piraconda, et les fameux Sharktopus. Les fameux Sharktopus.
Et c'est production Corman.
Eh ouais, Sharktopus contre le Pteraconda, et surtout... le Sharktopus contre le Werewolf, Werewolf, hein, tu vois, la baleine loup, quand même, faut le faire. Et il y a également le Cobra Gator, enfin bon, ça c'est pour les plus, ça c'est pour les plus récents, c'est l'exploitation qu'il y a en ce moment.
Le truc aussi à savoir sur Corman,
mais, qui est, oui,
le truc qui est quasiment inconnu pour tout le monde, c'est qu'il a fait aussi du super-héros. Là, il a fait le Captain America en 92.
Et il a fait Tira. Et les 4 aussi. Fantastiques qui n'est jamais sorti.
Voilà, c'est celui-là que je voulais en parler parce que ce fameux 4 fantastiques qui n'est jamais sorti, il l'avait fait pour ne pas perdre les droits en fait. Mm-hmm. Et du coup, il n'a jamais fait le film, il n'a jamais été sorti. Et c'est une pépite du Z quoi. C'est
bon, après, si on cherche sur internet,
on
peut le trouver.
Mais il a également produit des films qui ont obtenu un gros succès. Le Tambour. Hein, le Tambour, Palme d'Or, quoi, co-Palme d'Or, d'ailleurs, avec le film Apocalypse Now, hein, c'était la même année. Fitzcarraldo, il a fait Moi, Christian F, le 2 Emmanuel, le 4 et le 6, Chromosome 3, qui est pas mal, quoi. Mm-hmm. Donc, il touchait dans tous les genres. Et bon, ça, c'est au niveau de sa carrière de... producteur, voilà. Donc le premier qui passe ce soir, c'est Mitraillette Kelly. Hein, mm-hmm. C'est bien ça, quoi. Mitraillette Kelly. Donc,
moi, j'y serai, en tout cas.
Alors, c'est un film avec l'un des premiers rôles de Charles Bronson, hein, quand même, quoi. Et ça raconte l'histoire d'un gangster qui a vraiment vécu. C'était dans les années 30. Hein, c'était bon, il y avait tous les gangsters là qu'on aime bien, quoi. Il y avait Bonnie and Clyde. Il y avait l'autre aussi là, Dillinger. Enfin, c'est tout la même époque. Hein, c'est mm-hmm. quand le FBI, c'était que ils étaient trop nuls, quoi, pour choper les brigands. Donc, ok, quoi, on pouvait y aller, quoi. C'était la foire. Et c'était surtout situé un tout petit peu après la Grande Dépression aux États-Unis. Beaucoup de gens n'avaient pas de pognon, donc on essaie de s'en procurer par tous les moyens. Voilà, Mitraillette Kelly, donc c'est ce soir en salle 2, car en salle 1, eh bien, il y a le film dont tu
L'embryon par Braconnet.
Voilà,
de Koji Wakamatsu. Et là, je conseille vivement aussi les personnes d'aller le voir. C'est vraiment la quintessence du cinéma de Koji Wakamatsu, parce que il faisait des films souvent bricolés, beaucoup tournés sur le toit de son studio, de sa maison de production ou quoi que ce soit. Et là, on sent vraiment des effets visuels assez prenants. Il y a un travail sur le son, sur l'image et tout. C'est assez oppressant et en même temps, voilà. Il y a tout cet aspect de rapport à la sexualité, de rapport de force aussi avec entre cet homme et cette femme. Et c'est vraiment à voir au cinéma.
Quand dans le catalogue, il y a une photo noir et blanc, c'est un film en noir et blanc.
C'est un film en noir et blanc, oui. Mais les expérimentations visuelles dedans sont assez folles. Il faut vraiment le voir. Et je crois qu'il est dispo qu'en DVD. Maintenant, c'est difficile à trouver. Donc, saisissez l'occasion d'aller le voir sur grand écran. Franchement, ça vaut le coup.
Bah, vous avez le choix. Hein. C'est soit ce film, soit le Roger Corman. Hein. C'est, ouais. Ce soir, c'est
selon votre sensibilité et votre humeur du jour.
Voilà, c'est ça, quoi. Tout à fait, quoi. L'humeur du dimanche soir, quoi. Voilà. En fait. Allez, c'est pas mal. On a complètement terminé cette émission. On se donne rendez-vous demain, hein, toujours à la même heure et toujours au même endroit, pour un nouveau Extrême Cinémathèque. Merci beaucoup.
Bah, merci aussi pour l'invitation.
Tu seras donc présent en fin d'après-midi pour présenter le Beresford. Ça y est, j'y suis arrivé, quoi, sans enfourcher, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. Et donc, on rend l'antenne au studio de Radio Éphémère 89.MHz. Encore merci au dynamique duo de techniciens Léo Cadi et Django. Et donc, rendez-vous à demain. Et merci à l'équipe Choc de Crossover Extrême et à la Cinémathèque de nous accueillir dans ces murs, bien que ce soit un petit peu bruyant. Mais ça, on s'en fout, on est à Éphémère, quoi, de toute façon.
C'est l'ambiance.
Allez, ciao. Faites-le bien.